La mort des héros.
Nouvelle édition de la Bibliothèque de Babel. Quelques textes choisis, appartenant à des genres différents, à des langues différentes, traduits le cas échéant pour la bonne intelligence de l'émission et le confort des auditeurs. Quelques textes donc se trouvant ici rassemblés, comme les langues discordantes qui surgirent dans la ville de Babel, au moment où les hommes voulurent s'égaler à Dieu. La seule ambition que nous avons ici est de les confronter, car si les langues et les registres changent, la voix reste humaine, de même que les mots. Et la littérature ne parle jamais que des choses humaines.
Un endroit désert, sur la côte. Ajax, seul. Le sacrificateur est donc là, debout, de manière à trancher au mieux, si l'on peut s'accorder encore le loisir de tout calculer. Il est le don du plus détesté de mes hôtes, du plus odieux à ma vue, Hector. Et il est enfoncé dans une terre ennemie, le sol de Troade, fraîchement aiguisé à la pierre qui ronge le fer. Je l'ai planté en outre avec le plus grand soin, afin qu'il ait la complaisance de faire mourir cet homme-ci, moi-même, au plus vite. Ainsi nous sommes prêts. Et maintenant, c'est toi, Zeus, toi le premier, comme il est juste, dont je réclame le secours. Je ne te demanderai pas une bien grande faveur. Fais-moi la grâce seulement de dépêcher à Teucros un messager porteur de la triste nouvelle, pour qu'il soit le premier à relever mon corps percé de cette épée fraîchement ensanglantée. Il ne faut pas que, mes ennemis l'ayant aperçu avant lui, je sois jeté en pâture aux chiens et aux oiseaux. C'est là, Zeus! C'est là tout ce que j'attends de toi. Mais, en même temps, j'invoque Hermès infernal, le guide des morts. Qu'il m'endorme doucement, et que ce soit d'un saut facile et prompt que j'aille déchirer mon flanc à cette épée. Et j'invoque encore, pour qu'elle m'assiste, les vierges éternelles qui éternellement observent les forfaits des hommes, les Érinies sévères aux jarrets rapides. Qu'elles sachent comment je succombe, malheureux, sous les fils d'Atrée, et qu'elles les saisissent, eux aussi, à leur tour, pour les faire périr, périr tout entier, misérables, misérablement. Et, de même qu'elles me voient verser ici mon propre sang, que de même donc, ils périssent sous les coups des plus proches des leurs, qui ainsi à leur tour verseront leur propre sang. Allez, Érinie, prompte vengeresse, allez, mettez-vous au festin, n'épargnez pas leur peuple tout entier. Et toi, qui vas menant ton char dans les hauteurs du firmament, soleil, quand tu verras la terre de mes pères, retiens tes rênes plaquées d'or, pour annoncer mes malheurs et ma fin, à mon vieux père et à ma pauvre mère. Ah, quand la malheureuse apprendra la nouvelle, c'est un long sanglot que sans doute elle poussera par toute la ville. Mais à quoi bon se lamenter pour rien? Il faut se mettre à la besogne au contraire, et vivement. Ô mort, voici l'heure, viens, jette un regard sur moi. Mais toi, du moins là-bas, je pourrais te parler encore, tu seras toujours près de moi. Tandis que toi, clarté de ce jour radieux, et toi, soleil sur ton char, je vous salue ici pour la dernière fois, et jamais plus ne le ferai. Lumière, sol sacré de ma terre natale, Salamine, qui sert d'assise au foyer de mes aïeux, illustre Athènes avec ton peuple frère, et vous, sources et fleuves que j'ai là sous les yeux, plaines de Troade, tous ensemble, je vous salue ici. Adieu, vous qui m'avez nourri. Voilà le dernier mot que vous adresse Ajax. Désormais, c'est à ceux d'en bas dans l'enfer que je parlerai.
on n'assiste pas au suicide sur les scènes grecques. Il est toujours caché, car la mort porte la marque du monde d'en bas, dont les vivants ne doivent rien voir. Ici, c'est Ajax qui se tue en se jetant sur son épée, parce qu'une déesse l'a rendu fou furieux. Cette folie lui vaudrait une condamnation à mort par les autres chefs de l'armée, parce qu'elle n'est pas humaine, qu'elle est trop terrible pour être celle d'un homme, et qu'elle lui interdit, une fois revenue à lui, de rester parmi les siens. Pourtant, dans le monologue qui précède le suicide, il faut le remarquer, nulle trace de folie. De la méthode, plutôt, car un tel acte doit se faire dans les règles, selon les rites. En homme noble, il évite l'ignominie d'une punition et reprend l'ascendant sur sa propre vie par cette ultime action qu'il en dépossède.
Mais une fois le héros mort, qui va le chanter ?
Walt Whitman, 1865. O captain, my captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every rack, the prize we sought is won. The port is near, the bells I hear, the people all exulting, while follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. But O heart, 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 O the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. O captain, my captain, rise up and hear the bells, rise up, for you the flag is flung, for you the bugle trills, for you the bouquets and ribboned wreaths, for you the shores are crowding, for you they call the swaying mass, their eager faces turning. Hear, captain, dear father, this arm beneath your head, it is some dream that on the deck you've fallen cold and dead. My captain does not answer, his lips are pale and still. My father does not feel my arm, he has no pulse nor will. The ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done. From fearful trip the victor ship comes in with object won. Exult, O shores, and ring, O bells, but I with mournful tread walk the deck my captain lies, fallen cold and dead.
Ô capitaine, mon capitaine, terminez notre effrayante traversée. Le navire a franchi tous les écueils. Le prix de notre quête est gagné. Le port est proche, j'entends les cloches, la foule qui exulte, suivant des yeux la quille franche, le vaisseau lugubre et audacieux. Mais ô cœur, 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 ô les gouttes rouges qui saignent sur le pont où gît mon capitaine étendu, froid et sans vie. Ô capitaine, mon capitaine, lève-toi, écoute les cloches, lève-toi. Pour toi on hisse le drapeau, pour toi le clairon trille, pour toi les bouquets et guirlandes enrubannées, pour toi les rives noires de monde. C'est toi qu'elle appelle, la masse ondulante, leurs visages fervents se tournent. Tiens, capitaine, cher père, ce bras passé sous ta tête, ce n'est qu'un rêve si sur le pont tu es étendu, froid et sans vie. Mon capitaine ne répond pas. Ses lèvres sont pâles et immobiles. Mon père ne sent pas mon bras. Il n'a ni pouls ni volonté. Le navire est ancré sain et sauf, son périple clos et conclu. De l'effrayante traversée, avec son trophée, le navire rentre victorieux. Aux rives, exultez, et sonnez aux cloches. Mais moi, d'un pas lugubre, j'arpente le pont où gît mon capitaine, étendu, froid et sans vie.
Whitman aurait composé ce poème à la mort d'Abraham Lincoln, qu'il célèbre ainsi comme le timonier de l'Amérique, mourant à son service après l'avoir mené à bon port.
Mais la mort est égale. Elle frappe les héros grecs à la gloire immortelle, les présidentes à la conduite héroïque et les gosses de Rancy. Ainsi le petit Bébert, souffrant du pneumonie aggravé dans Voyage au bout de la nuit. Le narrateur, médecin en banlieue parisienne, s'est rendu pendant la journée pour demander conseil à un spécialiste qui d'ailleurs ne lui donne aucune réponse ni indication utile. Le soir tombe et il rentre chez lui, pressentant déjà qu'en son absence, tout s'est fini pour Bébert.
La nuit est sortie de dessous les arches. Elle est montée tout le long du château. Elle a pris la façade, les fenêtres, l'une après l'autre, qui flambaient devant l'ombre. Et puis elles se sont éteintes aussi, les fenêtres. Il ne restait plus qu'à partir une fois de plus. Les bouquinistes des quais fermaient leurs boîtes. « Tu viens ?» que criait la femme par-dessus le parapet à son mari, à mon côté, qui refermait lui ses instruments et son pliante et les asticots. Il a grogné et tous les autres pêcheurs ont grogné après lui et on est remonté, moi aussi, là-haut, en grognant, avec les gens qui marchent. Je lui ai parlé à sa femme, comme ça pour lui dire quelque chose d'aimable avant que ça soit la nuit partout. Tout de suite, elle a voulu me vendre un livre. C'en était un de livre qu'elle avait oublié de rentrer dans sa boîte à ce qu'elle prétendait. Alors ce serait pour moins cher, pour presque rien, qu'elle ajoutait. Un vieux petit Montaigne, un vrai de vrai pour 1 franc. Je voulais bien lui faire plaisir à cette femme pour si peu d'argent. Je l'ai pris son Montaigne. Sous le pont, l'eau était devenue toute lourde. J'avais plus du tout envie d'avancer. Au boulevard, j'ai bu un café crème et j'ai ouvert ce bouquin qu'elle m'avait vendu. En l'ouvrant, je suis juste tombée sur une page d'une lettre qu'il écrivait à sa femme, le Montaigne, justement pour l'occasion d'un fils à eux qui venait de mourir. Ça m'intéressait immédiatement ce passage, probablement à cause des rapports que je faisais tout de suite avec Bébert. « Ah !» qu'il lui disait, le Montaigne, à peu près comme ça à son épouse. « T'en fais pas, va, ma chère femme. Il faut bien te consoler. Ça s'arrangera. Tout s'arrange dans la vie. » Et puis d'ailleurs, qu'il lui disait encore, « J'ai justement retrouvé hier, dans des vieux papiers d'un ami à moi, une certaine lettre que Plutarque envoyait lui aussi à sa femme dans des circonstances tout à fait pareilles aux nôtres. Et que je l'ai trouvée si joliment bien tapée, sa lettre, ma chère femme, que je te l'envoie, sa lettre. C'est une belle lettre. D'ailleurs, je ne veux pas t'en priver plus longtemps, tu m'en diras des nouvelles pour ce qui est de guérir ton chagrin. Ma chère épouse, je te l'envoie, la belle lettre. Elle est un peu là comme lettre celle de Plutarque. On peut le dire, elle a pas fini de t'intéresser. Ah non, prenez-en connaissance, ma chère femme. Lisez-la bien, montrez-la aux amis, et relisez-la encore. Je suis bien tranquille à présent, je suis certain qu'elle va vous remettre d'aplomb. Votre bon mari, Michel. Voilà que je me dis, moi, ce qu'on peut appeler du beau travail. Sa femme devait être fière d'avoir un bon mari qui s'en fasse pas comme son Michel. Enfin, c'était leur affaire à ces gens. On se trompe peut-être toujours quand il s'agit de juger le cœur des autres. Peut-être qu'ils avaient vraiment du chagrin. Du chagrin de l'époque. Mais pour ce qui concernait Bébert, ça me faisait une sacrée journée. Je n'avais pas de veine avec lui, Bébert, mort au vif. Il me semblait qu'il n'y avait rien pour lui sur la terre, même dans Montaigne. C'est peut-être pour tout le monde la même chose, d'ailleurs. Dès qu'on insiste un peu, c'est le vide.